Bonjour et bienvenue dans l'émission Culturellement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Raphaël Devrède, doctorant en histoire. Bonjour Raphaël.
Bonjour Annick, je suis en effet historien à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et je travaille sur le domaine de Rambouillet, mais je vous laisse la parole.
Alors justement, vous allez nous parler de la forêt. La forêt de Rambouillet, l'évolution de la forêt de Rambouillet et puis la chasse à Rambouillet. Pour commencer, la forêt de Rambouillet est une vieille forêt, très ancienne. Je crois qu'on a retrouvé des traces du néolithique. Ça faisait partie de la forêt des Carnutes, non ?
Et oui, en effet, on a une vieille légende sur le lieu qui dit que la forêt d'Yvelines s'apparente ou était en fait un vestige de la forêt des Carnutes. Mais les travaux les plus récents des archéologues ont montré en fait qu'à l'époque gallo-romaine, ce qu'on appelle la forêt de Rambouillet était en fait déjà défrichée. Et il y a des villae qu'on retrouve très facilement en forêt. Ça fait des enclos carrés, donc quand vous vous promenez, vous pouvez les retrouver. Et en fait, c'était les formes des anciennes fermes. Donc il faut imaginer des bâtis avec des troupeaux et des clairières défrichées qui permettaient l'agriculture, l'élevage. Et puis il y avait aussi déjà de la chasse à l'époque.
À l'heure actuelle, quand on se promène, on imagine, là, les petites familles vont se promener un week-end dans la forêt. Et là, en se promenant dans la forêt de Rambouillet, est-ce qu'on peut, nous, novices, détecter, remarquer des traces, des choses qui nous laissent penser qu'à cet endroit-là, à un instant donné de l'histoire de la forêt, il y a eu une villa gallo-romaine ou une terre défrichée, reboisée au 19e.
Les traces sont plus ou moins visibles selon les lieux et puis les sites. Moi, j'avais commencé de manière amateur dans la forêt, donc en me promenant, et surtout avec l'aide des cartes. Donc l'hygiène est la plus facile. Il y a plein de documents sur le site des archives des Yvelines aussi. Donc on peut approcher, localiser et puis aller sur le site. Les sites dont je parle sont vraiment importants. Pourtant, on parle de talus de 3 mètres de haut avec des fossés, donc on peut pas vraiment passer à côté si on les a localisés. Après, il y a une série de sites, on peut passer aux anciens châteaux des rois et des seigneurs locaux, et puis les différents aménagements. Ah bah je pense le plus facile à remarquer, puisqu'il est en clairière et en ville, c'est celui de Montfort, par exemple. Sinon, on peut trouver des anciennes traces de talus et de sites médiévaux, par exemple au mar de Villepère, sur la commune des Brévières, là où en fait l'eau servait de douve. Et on a toute une série de monticules qui ont été faits de main d'homme pour mettre en fait un site seigneurial. Donc là aussi c'était défriché, il n'y avait pas de bois à l'époque.
Ouais, et à Saint-Hubert aussi, non ?
Oui,
ça,
voilà.
On trouve aussi des choses à Saint-Hubert.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors Saint-Hubert, c'est bien après, on est au XVIIIe siècle, quand Louis XV essaie d'agrandir le domaine de Versailles. En venant à Rambouillet, il est déjà accoutumé à venir depuis 1723. Il chasse donc chez son grand-oncle, le comte de Toulouse, et puis il décide de faire aménager un nouveau site qui s'appelle d'abord le pavillon, puis le château de Saint-Hubert, sur les bords des étangs de Hollande, eux-mêmes aménagés par son arrière-grand-père Louis XIV.
Donc on va recommencer, à partir des débuts, sur l'origine d'une forêt, quand les Romains arrivent sur le territoire gaulois, est-ce qu'on sait quelle population habitait dans la forêt ? Si c'est pas le peuple des Carnutes, est-ce que cette forêt était déjà habitée ou entretenue par une peuplade gauloise ?
Avant les Romains, oui. Donc je ne suis pas antiquisant, mais moderniste et contemporaniste, donc pour les époques du 18e siècle à nos jours. Donc je suis pas spécialiste, j'ai quelques connaissances. Donc vraiment à l'époque, l'arrivée des Romains, il y a déjà eu un mélange, notamment chez les élites de la culture romaine et selon les lieux de ces cultures celtiques ou gauloises, selon le terme qu'on retient. Quand César arrive, il y a déjà eu un mélange culturel, au moins chez les élites. Et donc bah, après, il y a une conquête et puis une pacification des différentes tribus gauloises, mais là je peux pas rentrer dans les détails.
Ensuite, on a donc la période moyenâgeuse. Vous avez parlé de Montfort, des seigneurs de Montfort. Et puis, il y a ce qui va beaucoup, dès l'époque moyenâgeuse. Encore une fois, dites-moi si je me trompe. Mais dès l'époque moyenâgeuse, la forêt va beaucoup attirer, peut-être même avant, les seigneurs à cause du gibier.
Tout à fait.
Alors, quel gibier trouvions-nous dans la forêt de Rambouillet ? Est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui ? Comment ça s'organise tout ça ?
Alors depuis l'âge glaciaire, donc il y a 10 000 ans environ, la faune est restée à peu près la même. On a très peu de traces pour cette période. Donc il faut savoir que quand l'Empire romain tombe, entre le 3e, enfin c'est plutôt le 4e, 5e siècle, eh bien la forêt de Rambouillet, comme beaucoup de lieux, en fait, il y a des petits sites, des hameaux de fermes, des villae, on appelait ça, donc en latin. Et le site va se reboiser. Donc on a un boisement de la forêt à ce moment-là. Et donc l'augmentation du nombre d'arbres, de parcelles en forêt, fait qu'il y a une nouvelle économie économie qui se tisse, une économie basée toujours sur l'élevage, beaucoup moins sur l'agriculture, et puis du coup sur la chasse. Et on sait que les rois francs, les premiers, vont s'intéresser aux grands massifs autour de la future Île-de-France, donc Compiègne, Fontainebleau et puis Rambouillet. On se retrouve au 8e siècle avec la première mention écrite pour Rambouillet, qui est la charte de confirmation de la donation de la forêt, qui s'appelle la forêt Aequilena, donc c'est ce qui va donner la forêt d'Yvelines, de Pépin le Bref, le roi des Francs de l'époque, à l'abbaye de Saint-Denis.
Là, on est au 8e siècle.
On est en 768.
Donc ensuite, la donation a été confirmée, si mes souvenirs sont par son fils, hein, Carloman, donc nous sommes au 8e siècle. Ensuite, Charlemagne. Ensuite, nous arrivons à Pépin le Bref, donc là, nous sommes au 10e siècle. Et la forêt va continuer comme ça à évoluer jusqu'à nous aujourd'hui, c'est ça?
C'est ça. Et du coup, le grand tournant de ce moment, c'est l'époque des Montforts.
D'accord, on va faire une petite pause et puis on revient sur l'époque des Montforts.
Bien sûr.
Donc nous voilà de retour sur RVE, dans Culturellement Vôtre, avec Raphaël Devrède, qui nous parle de la forêt de Rambouillet, de son évolution et de la chasse. Nous en étions restés au Montfort. Donc nous sommes au début du XIIIe siècle, quand la forêt devient la propriété des comtes de Montfort. Alors que se passe-t-il au niveau de l'évolution de cette forêt sous cette grande famille seigneuriale?
Alors c'est intéressant parce que les Montfort arrivent dès la fin du Xe siècle. Ils sont les gruyers de l'Yvelines, c'est pour ça qu'on trouve l'étang du gruyer.
C'est quoi
entre Rambouillet et Le Perret? Oui, alors le gruyer, c'est ce qui va devenir le maître des eaux et forêts. Donc en gros, c'est l'administrateur pour le roi de la forêt, du gibier, et donc aussi des gens qui habitent ces lieux. C'est une charge qui est donnée par le roi à un de ses nobles pour gouverner les lieux.
Donc du coup, il devrait être le gruyer du roi de France. Quel est son rôle? Comment ça s'organise? Et qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la forêt de Rambouillet?
C'est vraiment intéressant parce que les comtes de Montfort, bon, ils sont pas, on va dire, les seigneurs d'abord, sont donc, on va dire, les gestionnaires et administrateurs de la forêt, qui a une morphologie qui évolue beaucoup entre leur arrivée au Xe siècle et le XIIIe siècle, parce qu'on est en plein moment des grands défrichements. Donc c'est une des grandes familles locales sur le nord du massif actuel, et ils vont, par exemple, donner des terres aux grands montains qui vont fonder un prieuré à Poigny-la-Forêt, par exemple. Donc c'est un moment où la forêt va disparaître de plus en plus, coupée par les moines et les paysans défricheurs qui s'installent. Le nom des Essarts-le-Roi vient de ce moment-là, quand on creuse et qu'on essarte la terre, quand on défriche et qu'on...
Essarter, ça veut dire défricher.
C'est ça.
Les et essarts, c'est pour ça qu'on a les Essarts-le-Roi.
Exactement. Donc il y a toute une série de toponymes qui rappellent ce moment du 11e, 13e siècle de grands défrichements, tantôt monastiques, tantôt seigneuriaux et paysans.
Alors du coup, la forêt diminue?
C'est ça.
Et les animaux?
Et les animaux. Les animaux dont on parle, c'est le grand gibier, donc le cerf, le sanglier, le chevreuil. Après, on pense aux lièvres et puis aux différents oiseaux. C'est des animaux qui sont très à l'aise en plaine et ils se nourrissent d'herbe. Et l'herbe, on la trouve plutôt dans les clairières et en prairies. Donc la mise en culture des terres va leur profiter directement. Et il y a toute une gestion des parcs de chasse et des forêts de chasse royale en lien avec ça. Donc on va cultiver des terres exprès pour le gibier. On va empêcher la récolte des paysans dans certains territoires pour que le gibier puisse bénéficier de ces aménagements et du coup profiter d'une nourriture plus facile et multiplier les effectifs de gibier pour la chasse.
Alors du coup, il y a ce qu'on appelait vraiment ce fameux tableau de chasse, hein, qui consistait, une fois que la chasse était finie après ces quelques heures, d'étaler par terre tout le gibier qui avait été tué et de les référencer. Et justement, ça, c'est très important pour vous dans vos recherches, non?
Oui, tout à fait. Alors j'ai suivi l'évolution. C'est à la fois un cérémonial et puis un rite du cérémonial. C'est-à-dire que ça intervient après la chasse. C'est d'abord une pratique de la chasse à cour, de la vénerie royale et puis seigneuriale. On poursuit le cerf. Une fois tué, on le dépèce et on prépare tout un rituel où en fait on va mettre en scène le repas des chiens qui vont se nourrir sur la carcasse, et les courtisans présents pendant la chasse vont assister à ce moment. On appelle ça, si c'est sur les lieux mêmes et juste après la mise à mort, on appelle ça la curée chaude, le repas des chiens, quand la carcasse et les odeurs sont chaudes, et c'est un moment pour entraîner les chiens à la chasse, pour qu'ils s'habituent, on dit, à la voix du cerf, c'est-à-dire à l'odeur, et donc à suivre, à partir en quête de l'animal.
Est-ce qu'il y avait des chiens qui étaient spécialisés dans la chasse du cerf, d'autres dans la chasse du sanglier, par exemple?
On a tous les exemples possibles, j'en donnerai deux. Alors on appelle ça, le terme technique, c'est créancier. On dit qu'il est créancier sur tel animal. Donc par exemple, la meute royale du cerf, elle est créancée sur le cerf. Donc on leur apprend à ne chasser que les cerfs mâles. Donc normalement, ils ne doivent pas se détourner de la voie du cerf identifié en début de chasse, et ils ne sont pas pas censé sur une biche et encore moins un sanglier ou un chevreuil.
Ça veut dire que quand il y a chasse à cour, le seigneur va choisir quel animal il veut chasser à l'instant T et prendre les chiens en correspondance de l'animal qu'il veut chasser, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça. Ça se codifie très progressivement. La fin du Moyen-Âge, les premiers traités dont on a connaissance en France, c'est le traité de Gaston Phébus, on est au 14e siècle. Le dernier important, c'est celui de Jacques Dioville, donc traité de Vénerie, on est en 1788. Donc là, il y a la codification des pratiques et les derniers précisent bien, ils sont de plus en plus stricts sur la pratique. On identifie un animal parmi une sélection, donc on envoie très tôt les limiers en forêt pour identifier plusieurs animaux. On fait le rapport au roi ou au seigneur, et celui-ci va décider de quel animal sera traqué pendant la journée. Et les équipages deviennent de plus en plus performants, les chiens aussi, on travaille les chiens, on les sélectionne de plus en plus habilement et techniquement, si bien qu'au XVIIIe siècle, on se retrouve avec des meutes qui peuvent prendre plusieurs cerfs à la suite dans la même journée.
Deux questions. La première, ça allait jusqu'à combien d'animaux par jour de chasse on pouvait chasser ? Combien potentiellement de jours de chasse par semaine, si on le sait ? Et troisièmement, quel chien de chasse on utilisait ?
Ça me permettra de répondre à la question de tout à l'heure. Le comte de Toulouse, donc le fils de Louis XIV, qui devient le propriétaire de Rambouillet, est un passionné de chasse, il est grand veneur du roi, et il fonde une meute qui s'appelle les 100 quartiers. Et les 100 quartiers, c'est en fait une meute qui n'est créancée sur aucun animal en particulier et qui peut traquer aussi bien le daim, le chevreuil que le cerf. Donc ça, c'est une particularité. Et cette meute va être donnée par le comte de Toulouse à Louis XV, quand il est dans ses premières années. Il est à peine une vingtaine d'années quand il reçoit la meute. Et cette meute va devenir la meute de l'équipage royal, la base en tout cas, et elle est constituée, on dit, d'anglo-normand. Donc c'est un mélange, un métissage entre des chiens de race normande, française et anglaise. Les normands sont réputés pour leur capacité à chasser, et les anglais plutôt pour leur vitesse. Donc on allie un petit peu les capacités de chacun pour constituer une meute. Donc c'est une grande famille élargie puisqu'on a des couples reproducteurs qui sont sélectionnés et on sélectionne aussi la descendance et il faut allier les différentes capacités. Il y a des chiens qui préfèrent suivre au nez, donc à la voix, on préfère ce comportement-là, mais d'autres peuvent suivre à la vue, donc on peut choisir ou non d'en mettre. Certains vont tenir la distance, d'autres vont tenir certaines ruses du cerf, donc on essaie de mélanger pour faire quelque chose d'homogène. Et donc Rambouillet est acquis au XVIIIe siècle, en 1706 par le comte de Toulouse, mais ce n'est pas un territoire traditionnel de la monarchie des Bourbons du moins. Donc il faut créer une tradition, et elle est créée sur un très long terme, de 1715-20 à 1780, entre Louis XV et Louis XVI. Et donc là, il y a un calendrier des chasses qui se met en place, entre d'abord les différents domaines, de Versailles à Rambouillet, à Compiègne, à Fontainebleau, et sur les lieux, donc pour Rambouillet, la saison, c'est de juin à août. Ça peut paraître étonnant, c'est interdit aujourd'hui de chasser à cette période-là en vénerie. Et les chasses ont lieu tous les deux jours. On a deux meutes qui se relaient pour économiser les chiens et pour être le plus performant possible. Et les records de chasse, c'est trois cerfs pris à l'époque de Louis XVI, en une journée.
Trois cerfs ?
Trois cerfs.
Oh, je pensais plus. On va faire une petite pause et puis on se retrouve après pour dans quelques instants pour revenir justement sur la forêt en elle-même. Ça marche ? Raphaël, vous étiez en train de nous parler de la forêt de Rambouillet, l'évolution de la forêt, la chasse à Rambouillet. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la forêt et puis sur une grosse, grosse famille de la région que beaucoup, beaucoup d'auditeurs connaissent puisqu'ils ont été propriétaires du château pendant vraiment très, très longtemps. C'est la famille d'Angennes. Elle a fait beaucoup de choses ici. En dehors de transformer le château, elle a aussi eu son rôle à jouer dans la forêt.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une famille locale d'abord qui s'installe de Rambouillet. Ils viennent de l'ouest, des plaines de Beauce. À l'époque, et donc ils s'installent autour du 15e siècle, et ils vont beaucoup transformer Rambouillet, il y a un bel apogée à ce moment-là, et au 16e siècle, c'est un moment important pour l'histoire locale et l'histoire royale, puisque le seigneur d'Angennes de l'époque construit un parc d'environ 500 hectares, qui sera la matrice de celui qu'on connaît, dont on voit les murs quand on prend la route de Rambouillet à Saint-Léger ou de Rambouillet à Gazeran. Voilà, les murs qu'on voit, ce sont les vestiges non pas de ce parc 16e siècle, mais du 18e, mais c'est la base, et donc dans ce parc-là, on élève du gibier et on le chasse, et puis la famille s'étend beaucoup et le frère du seigneur d'Angennes au XVIe siècle est un évêque et même un cardinal ensuite, et il va vendre le site des Moulineaux à son frère qui va transformer le prieuré dont je parlais tout à l'heure, le prieuré des Moulineaux, en château seigneurial. Et il y a un autre élément important, c'est que en 1547, au mois de mars, enfin février et mars, le roi François Ier passe par Rambouillet et il s'arrête au château parce qu'il est malade. Et en fait, il va passer le dernier mois de son existence à Rambouillet et il meurt au château des Dangennes. Donc, il faut savoir qu'ils étaient à la cour du roi, donc ce ne sont pas des inconnus hein, pour François Ier. Et il y a tout un moment important puisque le château renoue un petit peu avec la tradition royale à ce moment-là. D'autant plus que Montfort, qui appartenait au duché de Bretagne jusque-là, avec Anne de Montfort, revient sous François Ier dans le giron royal. C'est la grande époque des forêts et des capitaineries des chasses aussi.
Et c'est là aussi que l'on doit la carte des chasses, non ? La carte des chasses qui se trouve aujourd'hui dans la mairie.
Alors là, c'est un peu plus tard, c'est au XVIIIe siècle. Il faut bien saisir que la forêt de Rambouillet, elle est formée au XVIIIe siècle. Quand le comte de Toulouse arrive, il achète toute une série de terres, donc les anciennes terres des Dangennes, celles de Rambouillet, qui sont entre-temps passés aux Dangennes Montaussier. Donc là, il faut noter, puisque c'est intéressant, ce sont les seigneurs de Rambouillet, mais ce sont aussi, le couple, sont les gouverneurs des enfants de France. Donc ce sont eux qui éduquent les enfants de Louis XIV. Le domaine est revendu au surintendant des finances Floriot d'Armenonville en 1699, oui. Et puis en 1706, dans l'agrandissement de Versailles, Louis XIV et son fils acquièrent Rambouillet, ça fait à peu près 500 hectares.
Alors, juste une petite parenthèse pour nos auditeurs, son fils illégitime, hein, le comte de Toulouse.
Légitimé. Alors, on appelle ça un bâtard, déjà à l'époque, donc il est hors du mariage avec la maîtresse officielle du roi, la Montespan. Ils ont une relation tout à fait particulière, et il va légitimer son fils, bâtard, et il va lui donner le plus de titres possible et de terres pour le hausser au niveau des grands nobles. Donc l'idée, c'est d'affirmer le pouvoir royal et de laisser de moins en moins de place aux grandes familles de la noblesse. On fait ça en famille.
Et il avait à peu près 200 chevaux.
Ah, au moins à Rambouillet.
Ouais.
La famille des Bourbon-Penthièvre va devenir celle des Orléans, en partie, avec le duc de Penthièvre, qui est un descendant des Orléans. Et donc, ils vont, à la veille de la Révolution, c'est une des familles les plus riches de France, si ce n'est d'Europe.
Et donc, du coup, dans les écuries, donc il y avait énormément de chevaux. Si le comte de Toulouse avait environ 200 chevaux dans ses écuries, j'imagine le nombre de chiens qu'il pouvait avoir, et à ce moment-là, où étaient ces chiens ?
C'est très très intéressant, parce que ce début du 18e, c'est un grand moment d'aménagement de ce qu'on appelle la forêt, qui n'est pas entièrement boisée, on y reviendra sûrement. Et donc, pour pratiquer la chasse, ils sont grands veneurs du roi, donc ils sont chargés, c'est un peu les ministres de la chasse, chargés d'organiser toutes les chasses à Rambouillet, mais aussi dans tous les autres domaines. Donc ils ont les meutes, et c'est très intéressant parce qu'au début elles n'étaient qu'à Rambouillet, ils créent un chenil qui est à l'angle de la place Félix-Foire actuelle. Donc c'est l'ancien chenil ducal des Bourbons-Penthièvre, et on a un épisode de rage dans les années 1750-1760, et pour protéger la meute, il y a une veille sanitaire qui est mise en place, de la prophylaxie, on appelle ça en vétérinaire, et donc on va diviser les meutes et en placer une à Saint-Léger, dans un ancien chenil aussi du château aussi royal. Donc il y a une tactique des chiens, il y a deux meutes à l'époque royale, donc on est sur plusieurs centaines de chiens, je ne pourrais pas dire combien, mais il y avait à peu près une bonne centaine qui chassaient par meute. Donc c'est comme une équipe de sport, il y a l'équipe officielle qui commence sur le terrain, il y a des remplaçants, les relais, et il y a aussi tous les chiens malades qu'on va laisser au chenil pour se soigner, les blessés et tout ça. Donc il y a toute une gestion d'équipe, sportive mais athlétique au moins.
Moi ce que j'entends en fait, dans tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, qui est absolument fascinant, c'est une vraie science.
Oui, ça devient une science royale progressivement, la chasse, la vénerie en tout cas royale. Il y a une affirmation politique de la chasse comme lieu de pouvoir, de cérémonie. On s'empare littéralement de centaines d'hectares, de milliers, et puis en plus on se met en scène en train de mettre à mort des animaux, et on privatise cette activité. On empêche tous les autres, les seigneurs, même les grands nobles, et les paysans, de chasser sur ces terres-là. Donc il y a toute une démonstration assez violente du pouvoir royal par la chasse et par la mise à mort. On met en réserve l'espace, on met en réserve les animaux, et on met en réserve leur mise à mort.
Alors justement, à la seconde, là, vous disiez, il n'y a que quelques personnes qui avaient le droit de chasser, les autres n'avaient pas le droit, etc. Qu'est-ce qui se passait si le paysan local, le paysan du coin, braconnait ?
Alors
Parce que forcément, il braconnait.
Le braconnage est endémique dans les forêts royales. Il y a une certaine tolérance, parce qu'ils sont au courant de la pression du gibier. Et donc, un des moyens de s'éviter des grandes montées sociales et de critiques, c'est de ne pas condamner les délits. Donc, il y a une certaine tolérance. Mais dans les archives, on trouve de nombreuses affaires de justice. Les braconniers qui sévissent trop. Alors, par exemple, il faut être tactique. Si on veut s'éviter des problèmes, on va braconner un lapin ou un petit animal. Si on s'attaque au cerf, c'est le symbole du roi.
Ah oui.
Et là, on est plus susceptible d'être pris, parce que d'abord, c'est plus gros, et en plus, c'est un symbole royal.
D'accord, très bien.
Donc, on retrouve des gens en prison, à Montfort, dans la prison, dans le bailliage, et puis à Rambouillet, accusés de braconnage.
On va faire une petite pause, et on se retrouve dans quelques minutes.
Bien sûr.
Raphaël, vous nous parliez de la forêt de Rambouillet, de l'évolution, de la chasse. Et là, on va parler un petit peu de la forêt au 19e siècle, parce qu'il y a un fort reboisement de la forêt de Rambouillet, peut-être aussi même au niveau national aussi. Hein. Parce que je crois savoir qu'on peut reconnaître un reboisement d'une forêt quand on voit des arbres bien alignés.
Donc ça, c'est le signe d'une plantation. Le 19e siècle est un tournant. Quand les Bourbons-Penthièvre arrivent, ils acquièrent toutes les terres, mais ils mettent en place aussi un aménagement forestier. Donc l'idée, ça va être de reboiser. Quand ils achètent, ils ont à peu près 15 000 hectares de terre sur les 25 000 du domaine qui sont dédiés à la forêt. Mais sur ces 15 000 hectares, il y a un tiers qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbres. Il y a soit des landes de bruyère, soit d'autres plantes plutôt destinées au pâturage. Les paysans essaient de conserver cette ressource plusieurs décennies. Et donc au 19e siècle, c'est déjà entamé au 18e, mais la politique de boisement, puisque le reboisement, c'est dire que ça a été boisé auparavant, or on sait que ça ne l'était pas. Donc on veut boiser, c'est-à-dire qu'on a du vide et on veut mettre des arbres. Et donc progressivement, on tente plusieurs techniques, on fait venir des arbres, notamment d'Amérique. Louis XVI fait des expériences comme ça avec André Michaud, qui est un naturaliste.
Vous en savez quels arbres il fait venir d'Amérique?
Ah oui, on sait à peu près, par exemple, le chêne rouge d'Amérique. Ceux qu'on voit en forêt, ce ne sont pas de cette époque. Par exemple, les cyprès chauves, qui sont au bord des canaux du jardin de Rambouillet, eh bien, ils datent de cette époque-là, ils viennent de Louisiane, et ils ont été importés à ce moment-là, en fait.
Donc, c'est des graines qui faisaient venir et pas de petits arbres, pas des sions, pas des petits arbres.
Il y avait les deux techniques. Ça dépendait, ça marchait plus ou moins bien. L'importation et l'acclimatation des arbres exotiques.
Donc, du coup, vous avez besoin d'andrologues pour ça, non?
Il n'y avait pas forcément ces spécialistes-là. L'histoire naturelle, au 18e, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas encore les frontières. Si on prend Louis-Jean-Marie d'Ambanton ou de Buffon, c'est des gens donc, qui sont naturalistes au Jardin du Roi. Ils travaillent surtout sur le minéral, sur le végétal, sur les animaux, les domestiques, les sauvages. Il n'y a pas de frontières encore. Donc d'accord. Ça, c'est vraiment très riche. Ils connaissent vraiment tout ce qu'on appelle la nature dans ses détails.
Pourquoi au 19e, il y a ce souci de boisement de la forêt de Rambouillet?
Alors, il y a deux enjeux. Le boisement, c'est d'abord la ressource ligneuse. Le ligneux, c'est tous les végétaux type arbre ou arbuste. Donc l'idée, c'est produire de la ressource bois. Donc on veut faire des rendements et comme le domaine est devenu un domaine de l'État, les États successifs, monarchie, empire et république, veulent faire de l'argent et comme aujourd'hui, le bois est une ressource très importante et ça permet aussi d'affirmer le pouvoir de l'État sur les territoires gérés.
Donc c'était pas un but écologique?
Pas du tout. Non, c'est des plantations économiques. Et il y a un autre avantage, c'est que comme on veut conquérir le territoire, je l'ai dit, ce sont des zones de pâturage, le fait de boiser, ça supprime les pâturages et ça permet aussi d'évincer définitivement les communautés paysannes qui vivent sur ces espaces-là.
Quand on parle de l'évolution de la forêt, aujourd'hui, quelle est la superficie de la forêt de Rambouillet? Et est-ce qu'elle a, par rapport à l'époque du 18e siècle, par exemple, est-ce qu'elle a diminué, augmenté, resté la même?
Alors, en superficie sur le foncier, on est à peu près pareil, hein, à environ 14 000 hectares, gérés par l'ONF, auxquels s'ajoutent toutes les forêts privées, que je ne compte pas dans l'exposé et ici. Et sur ces 14 000 hectares, ce qui est intéressant, c'est que le tiers qui manquait, on va dire, au 18e, puis au 19e, c'est un échec, hein, le boisement, jusqu'aux années 1970, pour plein de raisons. D'abord, les paysans qui mettent soit le feu, soit coupent les plantations, parce que ça va pas dans leur sens. Il y a aussi les lapins qui font des grands ravages, et puis des enjeux d'incendie et de sol. Sur des sols acides, on a beaucoup de mal à planter certains arbres, on a beaucoup essayé le chêne, et puis l'un des arbres miracle un peu pour les forestiers, ça va être le pin sylvestre et d'autres espèces de résineux. Et les premiers essais ont lieu justement sous Louis XVI, et puis il y a une nouvelle politique de boisement, on dit d'enrésinement, de plantation de résineux, à partir des années 1840, sous la monarchie de Juillet, et puis tout au long du 19e, et les hectares de conifères prennent de plus en plus d'ampleur au fil des siècles.
Je reviens un petit peu sur la chasse, parce que la chasse, c'est pas vraiment arrêté. Enfin, maintenant, il y a toujours nos chasseurs, hein, bien sûr, hein, qui sont aussi là pour réguler un petit peu la population de la forêt. Mais la chasse, c'est jamais arrêté, même à l'époque de nos présidents, parce qu'on a un très grand président qui chassait à Rambouillet, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors du coup, on a oublié la chasse à cour maintenant, donc on a la chasse à tir. Et du coup, comment ça se passait lors de nos présidents de la 4e République, début de la 5e République, qui chassaient encore, ça se passe comment?
Donc le cérémonial des chasses présidentielles, il est intéressant à suivre, puisqu'il est suivi d'une réduction du territoire du domaine. Dans ce qu'on appelle le domaine, c'était et le grand parc et la forêt. Fin 19e, début 20e, il y a une scission entre les deux, la forêt devient domaniale pour d'autres usages et le parc est strictement alloué à la présidence. Et donc il y a un grand rituel qui se met en place, les chasses présidentielles, donc qui sont tout à fait entérinées pendant la 3ème République, de 1880 quand Jules Grévy fonde les premières chasses jusqu'en 1940, voilà, avec la fin de la 3ème République. Et dès le retour d'une présidence, donc c'est la présidence Auriol, on est en 47, eh bien il y a réaménagement du site pour la chasse, sachant qu'il y a eu des chasses organisées pendant la guerre pour des officiers du 3ème Reich. Il faut savoir que par exemple le maréchal Sperle et le maréchal Göring sont venus chasser à Rambouillet pendant la guerre, puisque le domaine était celui du chef de l'État de Vichy, le maréchal Pétain, qui venait chasser lui-même avant. Donc il y a aussi une tradition républicaine là-dessus, autour des chasses présidentielles, donc c'est assez logique qu'il y ait une restitution dès 1947. Et donc les présidents vont chasser, il y a Vincent Auriol, René Coty, De Gaulle ne chasse pas, mais il continue et il le remet... Il se sert vraiment du cérémonial parce que c'est un vrai moment politique. On peut inviter toute une série de personnalités importantes, des ambassadeurs, des ministres, des députés, des princes ou des personnalités importantes dans d'autres états, des chefs d'entreprise. Et donc là, on noue un réseau, on s'affiche publiquement et officiellement avec ces gens-là dans le cadre républicain. Et puis, ça permet aussi de nouer des contacts autour de la chasse.
Alors, quand est-ce que la chasse, ou avec quel président, la chasse s'est arrêtée ?
La pratique personnelle d'un président chasseur, c'est avec Valéry Giscard d'Estaing.
C'est le dernier ?
C'est le dernier président chasseur. Chasseur qui tenait lui-même un fusil. Et la suppression des chasses présidentielles, elle a lieu en deux temps. À Rambouillet et Marly, c'est d'abord Jacques Chirac, en 1995, dès les premiers mois de son élection. Et la seconde suppression, c'est Nicolas Sarkozy pour le domaine de Chambord.
D'accord, et on sait pourquoi ça ?
Il y a deux enjeux. Alors, la campagne de Jacques Chirac était fondée notamment sur la fracture sociale. Donc, tout ce qui était assimilé à des pratiques luxueuses ont été interrogés et les chasses présidentielles en faisaient partie. A priori, les amitiés de la fille du président, Claude Chirac, avec Brigitte Bardot, ce qui va devenir le courant plutôt animaliste et du coup de bien-être animal et de. Voilà. Donc, il y a aussi ces enjeux-là qui ont dû sûrement circuler. Et puis, l'autre enjeu très simple, c'est de réduire le budget, les investissements.
Alors, aujourd'hui, il y a toujours la chasse à Rambouillet, il y a ces associations de chasseurs qui viennent avec une autre politique, hein, qui est plutôt là une politique de régulation de la population. Qu'est-ce qu'ils chassent, ces chasseurs, en dehors du sanglier ?
Alors, en dehors du sanglier, c'est le cerf et le chevreuil.
Et le faisan, non ?
Il n'y a plus de faisan, puisque faisan dépend quasiment entièrement de l'élevage.
D'accord.
Donc, dans le parc, il y a du faisan, mais dans la forêt domaniale, il n'y a que les faisans qui s'échappent de ces chasses privées. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de plans de chasse. Le plan de chasse, c'est quand on fait un comptage des populations et qu'on estime un quota qu'on peut prélever sur cette population. Et ce qui est intéressant, c'est que d'après les recherches que j'ai menées pendant la thèse, ce plan de chasse il naît dans le domaine de Rambouillet. C'est François Vidron qui est un forestier et chasseur qui met en place ça autour des cercicas, donc cette espèce japonaise qui ne vit que dans l'enclos du parc de Rambouillet. Et donc il met ça en place dans le grand parc et ça va petit à petit être diffusé à Chambord et puis dans les forêts domaniales et puis dans tous les territoires français en fait, de chasse bien sûr. Et donc l'idée, on fait un comptage et on prélève ce qui est autorisé. Donc là c'est l'ONF et la fédération départementale des chasseurs qui s'occupent de ces comptages et de la gestion des effectifs.
Alors moi j'ai une autre question. Tout au début de l'émission, vous nous disiez que à l'époque royale, la chasse était plutôt printemps-été, c'est ça ?
Tout à fait.
Qui n'est plus le cas aujourd'hui ? Qu'est-ce qui explique ce changement ?
C'était une des questions qui s'est posée progressivement, parce que c'est vrai que ça paraît naturel de chasser à l'automne et à l'hiver. C'est beaucoup la chasse à tir qui a influencé ça, puisque comme le montre la pratique royale, on peut chasser à court par tous les temps. L'idée c'est de faire des records, c'est de montrer son habileté. Donc chasser printemps par exemple, c'était la chasse la plus difficile, parce qu'on se fie sur l'odorat des chiens, et comme il fait très chaud, les odeurs s'envolent, littéralement. Et donc on perd la trace. Donc chasser à ce moment-là, avec une végétation très dense, c'était le plus dur. Je parle de végétation parce que c'est ça qui va aussi influencer ce passage à la saison d'automne et d'hiver. C'est que l'automne et l'hiver, on perd les feuilles et donc la chasse à tir en profite. Et donc dans les archives de Rambouillet, on trouve des anecdotes là-dessus, comme quoi les premières chasses sont difficiles parce qu'il y a encore du feuillage et plus la saison va et plus ça facilite le tir de chasser l'hiver. Il y aurait des enjeux écologiques à évoquer sur la période de reproduction, mais l'automne avec le brame et l'hiver, c'était aussi le moment de reproduction des sangliers. Donc on chasse pas au moment des naissances, mais on chasse au moment de la reproduction, ce qui est très dommageable pour certaines espèces. Dans tous les cas, il y a des enjeux écologiques qui sont secondaires dans ces saisons, en fait.
Et puis aujourd'hui, la forêt aujourd'hui, c'est... On a vu qu'aujourd'hui, la chasse est plutôt une régulation de la population. Aujourd'hui, la forêt, c'est plutôt une forêt de promenade, de loisirs. Il y a des lieux de loisirs qui ont été créés. Première chose qui me vient en tête, c'est les fameux étangs de Hollande. Mm-hmm. Hein. Aujourd'hui, en se promenant dans la forêt de Rambouillet, est-ce qu'on peut rencontrer des animaux ?
Ah oui, tout à fait. C'est tout l'enjeu. La forêt de Rambouillet, elle est sur un carrefour entre loisirs, aménagement forestier. Il ne faut pas oublier que la forêt de Rambouillet, c'est aussi, et peut-être avant tout, un milieu forestier et donc écologique. Et donc, les loisirs peuvent nuire beaucoup à la faune, donc il faut être prudent quand on se promène, surtout à certaines saisons, avec la naissance des faims.
C'est quelle saison ?
Mai-juin,
d'accord.
Voilà, donc au printemps. Donc là, voilà, il y a des saisons importantes, le brame aussi. Il faut savoir, par exemple, la cueillette des champignons, elle est en pile souvent au moment du brame, aux alentours, et donc il y a vraiment des problèmes de masse touristique et de pratique autour de cette saison. Donc c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de cerfs dans le massif domanial, c'est parce qu'ils sont poussés vers les forêts privées où les promenades et les cueillettes sont interdites.
D'accord. Donc il faut faire attention en se promenant dans la forêt de Rambouillet. pas faire trop de bruit, et puis regarder autour de soi. Exactement. Et puis retrouver aussi peut-être ceux qui ont des enfants, je pense que ça intéressera aussi pas mal d'enfants, de regarder les traces laissées au sol par les animaux, les branches cassées, les traces d'empreintes qu'on peut laisser dans la forêt d'Ambouillet, qui reste une magnifique forêt. Raphaël Devrède, merci beaucoup, c'était vraiment fascinant cette histoire de la forêt d'Ambouillet, son évolution et de la chasse.
Au revoir. Merci beaucoup, Annick.